Rebienvenue au lendemain de la veille, l'émission du matin de 7h à 9h à CKUT 90.3. Alors on va aller maintenant rejoindre Frédéric Dubois qui se trouve à Athènes. Eh bien, qu'est-ce qui se déroule à Athènes? Sans doute en avez-vous pas entendu parler, mais il y a un sommet sur la gouvernance de l'Internet. Et au centre des débats de ce sommet, eh bien, les États-Unis vont-ils continuer de dominer l'Internet tel qu'ils le font maintenant? On sait que, bien évidemment, l'anglais est la langue dominante de l'Internet. Il y a beaucoup de questions qui se posent autour de la suite ou le développement de l'Internet, surtout aussi le rôle que l'Afrique va jouer et pourra jouer dans l'accessibilité à l'information et aux technologies de l'information. On se rappelle entre autres le sommet mondial sur la société de l'information qui s'est tenu à Tunis au mois de novembre de l'année dernière. Eh bien, ce forum sur la bonne gouvernance de l'Internet, c'est aussi une suite de tous ces pourparlers au niveau mondial qui se déroulent constamment. Alors, Frédéric Dubois est à Athènes, en Grèce. On rejoint Frédéric. Peux-tu nous parler de ton rôle actuellement là-bas? Tu es avec l'Association pour le progrès des communications. Parle-nous et explique-nous un peu de ta mission à Athènes.
Oui, salut Roberto. Salut Sophie. En fait, moi, je suis sur le terrain ici comme reporter, si on veut, pour APC News. C'est un bulletin de nouvelles que je sors, moi, chaque mois, que je mets ensemble, que je rédige. Et APC, c'est une association non gouvernementale qui travaille sur des questions d'Internet et plus précisément sur des questions de développement d'Internet. Donc, comment acheminer l'Internet dans les régions les plus pauvres de la planète? Comment arriver à faire participer les gens à travers l'Internet? Et ça s'établit sur un réseau ça, de 40 membres que nous avons à travers le monde. Donc, moi, je suis vraiment ici pour essayer d'expliquer quels sont les enjeux qui sont débattus ici à Athènes dans le cadre du forum sur la gouvernance de l'Internet.
Frédéric, ce qui se déroule maintenant à Athènes se déroule dans un contexte international de discussion sur l'information et dans ce cas-ci sur l'Internet en particulier. On peut revenir aux événements marquants sur la société de l'information et entre autres le sommet mondial sur la société de l'information qui s'est déroulé à Tunis et qui fait partie d'un cycle, un cycle qui se développe depuis plusieurs années. Est-ce que tu peux nous dresser le portrait du contexte dans lequel se déroulent les événements qui ont lieu maintenant à Athènes?
Oui, rapidement, en fait, ce qui se passe ici à Athènes, c'est qu'on assiste au premier forum sur la gouvernance d'Internet. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Il va y en avoir trois au total. Un qui a lieu donc ici à Athènes, suivi d'un autre à Rio de Janeiro et un troisième au Caire dans les trois années qui viennent. Et ces forums-là, en fait, sortent d'un processus de 4 ans, donc les 4 dernières années, où les gouvernements, la société civile et les entreprises privées ont discuté de la question de la société de l'information. Ça, c'était un concept très, très vaste qui était supposé rassembler toutes sortes de questions reliées aux communications, reliées au développement et des communications. Et en fait, ce qu'on s'est très bien aperçu, je ne sais pas si vous vous souvenez peut-être, à Tunis, donc en Tunisie, en novembre dernier, en 2005, il y a eu un affrontement de logique et un affrontement surtout sur la question de qui allait diriger et contrôler l'Internet. Beaucoup de gens pensent que l'Internet n'est pas contrôlé, que l'Internet est libre comme l'air, mais en fait, derrière ça se cache quand même une structure. Sinon, on ne pourrait pas obtenir tu vois, des noms de domaine comme par exemple .ca ou .gov ou .qc.ca. Tous ces noms de domaine-là sont gérés à la base par une agence qui s'appelle ICANN et qui est basée aux États-Unis, en Californie plus précisément, et qui est rattachée par une entente au département du commerce des États-Unis d'Amérique. Ce qui se passe, c'est que par rapport à cet état de fait, plusieurs gouvernements, dans les dernières années, se sont insurgés contre cette domination américaine sur l'Internet et ont voulu élargir, en fait, la gouvernance, ils ont appelé ça la gouvernance de l'Internet, élargir ça à plusieurs pays, pour que plusieurs pays, dont la Chine qui s'est manifestée très fortement, l'Iran, l'Arabie Saoudite, mais aussi le Canada, on y a accès de manière assez importante, mais évidemment dans les régions éloignées d'Afrique, d'Asie, d'Amérique latine et de d'autres régions dans le monde, l'Internet ne se rend toujours pas. Il y a énormément d'exclus de l'Internet. Et comme on le sait, je veux dire, l'Internet est maintenant totalement au centre de l'économie canadienne, québécoise. Ce n'est pas le cas de plein d'autres régions. Et c'est pour cette raison-là aussi que les gens veulent y avoir accès, non seulement pour faire avancer leurs entreprises, pour faire avancer l'économie, mais aussi pour avancer des causes politiques, des causes humanitaires, pour faire aussi avancer les questions d'éducation et j'en passe. Donc, ce qui s'est passé depuis Tunis, là, où il y a eu ce choc entre différents gouvernements, on n'a pas réussi à avoir d'accord sur la question de la gouvernance d'Internet. Donc, ce qui a été décidé, c'est tout simplement de reporter à 2010 la question de l'établissement de nouveaux modèles pour diriger l'Internet. Et en attendant que ce nouveau modèle-là émerge, on a pensé, c'est-à-dire les organisations internationales, les Nations Unies et compagnie, on pensait que ce serait peut-être la meilleure chose d'établir trois forums qui allaient se suivre et pour discuter des différents enjeux de l'Internet, de la gouvernance d'Internet.
Alors Frédéric, quels seront les sujets à l'ordre du jour lors de ce premier forum sur la gouvernance de l'Internet qui se tient à Athènes cette semaine?
Roberto, ici à Athènes, en fait, on parle de questions d'accès à l'Internet. Donc, les grandes questions d'infrastructure, comment est-ce qu'on arrive à donner accès aux pays africains qui sont enclavés, par exemple? Comment est-ce qu'on arrive à faire baisser le prix de l'Internet qui, pour un étudiant, par exemple, dans un pays enclavé d'Afrique, prenons l'exemple du Rwanda, par exemple, comment est-ce que les Rwandais peuvent avoir un accès à un coût comparable à ce que nous, on paye au Canada pour l'accès à l'Internet haute vitesse. On sait que ces pays-là, en Afrique, payent environ 40 fois plus cher les coûts d'Internet. Il y a toutes sortes de raisons derrière ça, mais il y a entre autres des raisons du fait que le marché, donc les grandes entreprises qui s'intéressent à élargir le service Internet, trouvent que ces marchés-là sont moins rentables et donc ils investissent moins dans ces régions-là du monde. Donc on se retrouve avec un déséquilibre qui, encore une fois, pénalise des régions comme l'Afrique.
Oui.
Donc ici à Athènes, juste pour terminer là-dessus, on a des questions d'accessibilité, mais on a aussi des questions de diversité. C'est un grand enjeu qui a été débattu aujourd'hui même. Il y a eu une grande session où les gens ont parlé de diversité sur le web, donc une question de langue. Comment ça se fait que l'anglais est toujours la langue qui domine, mais vraiment sans conteste, l'Internet? Et comment est-ce que ça se fait que, par exemple, des langues asiatiques ou des langues en cyrillique, donc je pense aux Russes ou aux Bulgares, par exemple, comment ça se fait qu'ils n'arrivent pas à tirer leur épingle du jeu et aussi se faire une place sur le web pour que les gens de ces différentes régions-là puissent aussi participer dans le web activement? Donc, il y a eu des questions de diversité, d'accessibilité. Mais ensuite, il y a eu aussi des questions de genre. Comment ça se fait qu'il y a toujours un déséquilibre important au niveau de la participation des femmes dans l'Internet? Donc ça, c'est aussi un enjeu qui est amené ici à Athènes de manière assez importante.
Oui. Frédéric, lors du sommet sur la société de l'information de Tunis, on pouvait remarquer l'importance, l'imposante présence des compagnies qui venaient vendre leurs produits. Est-ce que c'est un peu la même scène qui est présente à Athènes?
Oui, mais à Athènes, évidemment, on a les gros joueurs. On a Google qui est là en force avec plusieurs représentants. On a Nokia qui est ici, le producteur de téléphones cellulaires. On a aussi plusieurs équipementiers, plusieurs entreprises comme France Télécom. On a aussi des intérêts des compagnies représentées par chez nous, par un délégué de l'Industrie Canada qui est sur place aussi, et qui, eux, en général, avancent un agenda assez clair, assez facile à comprendre, qui est celui d'essayer de voir comment ils peuvent se tailler une part de marché dans les endroits qui ne sont pas encore développés. Donc, on sait que l'avenir de l'Internet est sur le téléphone cellulaire, de plus en plus le web bouge vers le cellulaire, de plus en plus de gens accèdent au web à travers le cellulaire. C'est d'ailleurs le cas dans les pays en voie de développement où le cellulaire est vraiment l'endroit où les gens peuvent s'envoyer des messages, des courriels, et ainsi de suite. Et donc, agences-là vont dépenser leurs sous dans les questions d'infrastructure. Où est-ce qu'ils vont aller mettre l'argent? Qu'est-ce qu'ils vont viser? Et donc, ils s'intéressent beaucoup au débat sur le développement de l'Internet. Et ils veulent aussi influencer, d'autre part, le processus de gouvernance d'Internet, c'est-à-dire qu'eux essaient de garder le web le plus ouvert possible, un modèle, donc un modèle qui a toujours été mis de l'avant par les États-Unis, donc Free Flow of Information, qui n'est par ailleurs pas un mauvais modèle. Je veux dire, tous les modèles ont des bons et des mauvais côtés. Ce modèle-là du Free Flow of Information est avantageux évidemment pour les compagnies parce que il met de l'avant un modèle de libéralisation des marchés, donc d'avoir accès, par exemple, au marché chinois pour vendre des produits. Donc, c'est l'intérêt des compagnies là, qui est avancé. Mais d'un autre côté, si on pense aux ONG qui avancent, qui font des campagnes, par exemple, de droits humains ou qui essaient d'utiliser le web de manière créative pour faire valoir leurs principes, leurs idéaux, leurs idées, leurs différents enjeux, bien évidemment, un web qui serait contrôlé ne serait pas non plus avantageux. Donc, on ne veut pas que la Chine censure tout ce qui parle de droits humains et ainsi de suite. Donc, il y a des points de convergence entre les intérêts des compagnies, les intérêts des ONG ou des gouvernements, mais les compagnies sont avant tout ici dans un intérêt tout à fait commercial. On s'entend, ils s'en cachent pas du tout. Comme ils peuvent pour essayer de mettre de l'avant des modèles d'investissement où on libéralise les marchés à tout craint. Évidemment, l'équilibre à garder dans tout ça, et ça a été mentionné autant, comme tu le disais, à Tunis pendant le sommet sur la société de l'information que ici, à l'occasion du forum sur la gouvernance de l'Internet, il y a toujours la question de l'équilibre, de trouver un équilibre entre une ouverture des marchés qui permet de l'investissement pour développer ces infrastructures-là qui permettent d'acheminer l'Internet réellement, mais aussi de l'autre côté, il faut savoir de ne pas laisser les gens de côté, de ne pas laisser surtout les régions rurales de côté qui ne seraient peut-être pas visées par ces compagnies-là. Et c'est là où une réglementation s'impose. C'est là où aussi c'est toutes ces questions-là de gouvernance d'Internet-là se posent, et à savoir, est-ce que les Nations Unies vont pouvoir être un moteur, est-ce que les Nations Unies et les différents gouvernements nationaux, est-ce qu'ils vont devenir des catalyseurs, en fait, pour permettre que tous aient accès à l'Internet de manière équitable. Oui. Donc, c'est vraiment là le cœur de l'enjeu que nous, ici, venant de la perspective de la société civile, nous avançons, mais évidemment, on se heurte à des vérités de censure de la part de différents gouvernements autoritaires, et on se heurte aussi à des compagnies privées, donc le secteur privé qui est vraiment un agenda très, très à courte vue, avec des objectifs très bien définis pour maximiser les profits sans vraiment d'avoir d'égard à un développement réel pour les populations.
Oui, mais Frédéric, bon, ma question suivante, en fait, évidemment, c'est est-ce que les organisations plus petites qui défendent les droits des usagers, la démocratisation, l'accès à l'Internet, est-ce qu'ils sont représentés de façon importante? Est-ce qu'ils peuvent vraiment faire un poids dans tout ce qui se passe?
En fait, Roberto, je te disais que c'est assez impressionnant. Il y a plusieurs ONG qui ont mobilisé en grande pour ce premier forum sur la gouvernance d'Internet ici à Athènes. On a, par exemple, dans le cas de mon organisation qui s'appelle l'Association pour le progrès des communications, on a une vingtaine de délégués qui sont sur place, donc des gens qui travaillent sur les questions de genre. Par exemple, comment essayer de briser la fracture numérique, d'essayer d'en venir à bout. Mais aussi la fracture numérique au niveau des femmes. Donc, les femmes qui sont toujours les utilisatrices qui ont le moins accès à l'Internet, c'est tous les hommes qui dominent l'accès à l'Internet. Donc, d'essayer d'amener les femmes à participer plus fortement dans le web, ça, c'est une des questions que nous, on avance. On a aussi, de l'autre côté, une question de vie privée, donc de respect de la vie privée. Et là, on participe dans une coalition qui vient de se former ici à Athènes. Donc, nous, on avance ces différents grandes questions-là et on pousse. Mais on n'est pas les seuls. On a Reporters sans frontières qui sont sur place et qui font aussi une campagne par rapport aux journalistes qui sont emprisonnés un petit peu partout dans le monde, dont des cyber-dissidents, comme ils les appellent, des blogueurs, des journalistes qui utilisent le web pour publier, pour faire valoir leur point de vue, pour écrire des articles et qui sont souvent critiques de leur gouvernement et qui ensuite se font mettre en taule pour cette raison-là. On a le cas dernièrement de Alaa Al-Fatah, qui est un des blogueurs égyptiens qui a été emprisonné pour simplement avoir dit que le gouvernement égyptien faisait des mesures qui étaient tout à fait le contraire, qui heurtaient les droits humains. Et il a été faire un tour en prison de 40 jours. Nous, on a fait une grande campagne autour de ça. Donc, Reporters sans frontières est là pour parler de ça. On a aussi Amnesty International qui s'intéresse aux mêmes questions, donc d'emprisonnement de gens qui font valoir leur voix à travers le web. Oui. Il y a aussi toutes sortes de groupes. Par exemple, aujourd'hui, je suis en train d'écrire un article sur la question de l'accessibilité. Donc, c'est une question ça, qui est fondamentale ici. Comment est-ce que des gens qui ont des handicaps, qui ont des difficultés par rapport à la vue, qui ne peuvent pas entendre bien, qui ont des problèmes physiques aussi ou qui ont des limitations physiques, comment est-ce qu'on les amène ces gens-là à être partie prenante du web? Juste une étude des chiffres assez hallucinants qui ont été produits dans l'Union européenne montrent que juste dans l'Union européenne, là, donc on parle de 5 pays à l'heure actuelle, 30% de la population de l'Union européenne, donc des chiffres de 2002, aurait des problèmes, des handicaps d'une manière ou d'une autre. Donc, juste en lisant ces chiffres-là, on se rend compte qu'il y a énormément de citoyens qui sont complètement à l'extérieur du web. Donc, nous, quand on commence à parler de publier des articles, on a vu un tel article sur tel site web, et c'est du chinois complet pour beaucoup, beaucoup de citoyens qui ont tout simplement pas accès, soit par le fait qu'ils n'ont pas eu la chance d'aller à l'école, ce qui est un cas très, très commun. Je veux dire, beaucoup de gens ici à Athènes qui en parlent de ça, du fait que le problème de la fracture numérique n'est pas seulement un problème d'infrastructure, donc du fait qu'il n'y a pas de câble ou de satellites qui se rendent dans les temps, mais évidemment aussi qu'il n'y a pas d'éducation qui suit, donc un problème vraiment de training des gens.
Ouais.
Et ensuite aussi, les gens qui ont des handicaps et les femmes qui sont exclues du web.
Ouais. Frédéric, je pense qu'il nous reste à peu près une minute pour parler de ça. Est-ce que tu peux peut-être nous donner les liens où on pourra suivre ton blog ou en fait où on peut suivre les activités de APC?
http://www.apc.org, donc apc.org. Sinon, vous pouvez aussi aller voir le blog de mon association qui est au blogue.apc.org. Et sinon, il y a un ensemble de sites web qui sont tout à fait instructifs sur la gouvernance de l'Internet et que vous pouvez trouver en allant à intgov.org.
D'accord. Ben Fred, merci beaucoup.
Oui,
ok, ben c'est beau. Fait que écoute, il reste à peu près 30 secondes. Fait que écoute, c'est très bien. Fait que ben qu'est-ce que je peux te dire?
Est-ce que tu vas mettre ça sur Internet?
Ben, est-ce que tu voudrais que je le mette sur Radio for All? Allô?
J'aimerais beaucoup ça parce que je le mettrais en lien, ouais.
Ok, c'est beau, je te le mets sur Radio for All.
Tu vas bien, Roberto?
Oui, ça va très bien.
Ok, good.
Ok, ben écoute, on se reparle ici à Montréal, je pense, dans quoi, dans 2 semaines?
Ouais,